Comme chaque jour, le soleil brille de tout son éclat sur la savane africaine. Mufasa, le roi des lions, règne sur son territoire avec sa douce compagne, Sarabi. Aujourd'hui, c'est un jour de fête. Simba, leur premier enfant, vient de naître. Selon la tradition, Rafiki, le vieux singe, présente le lionceau sur le rocher des lions. Tous les animaux du royaume sont présents pour célébrer l'heureux événement. Cette naissance ne fait pas particulièrement plaisir à Scar, le frère du roi. Il est resté seul pour ruminer sa haine en pensant que cette petite boule de poil va monter un jour sur le trône et prendre sa place. Justement, après la cérémonie, Mufasa rend visite à son incorrigible frère et lui rappelle qu'il doit désormais le respect à Simba, le futur roi. Au fil des mois, le jeune Simba devient un lionceau plein de curiosité et de vie. Un matin de bonne heure, Simba entraîne son père pour admirer le lever du soleil. Quel magnifique paysage ! Simba est émerveillé par son futur domaine où vivent des animaux de toute espèce. Ce royaume lui appartiendra un jour. Mais pour l'instant, Mufasa met son fils en garde. Il lui est interdit de s'aventurer hors de la terre des lions. Très naïvement, le lionceau veut partager son enthousiasme avec son oncle Scar, ce personnage bizarre, pas sympathique. Scar est allongé, déprimé et ne saute pas de joie à l'annonce des futurs pouvoirs de Simba. Perfide, il révèle au lionceau ce qui se trouve derrière la frontière, le cimetière des éléphants. Mais il ne faut pas y aller, Simba, car c'est réservé aux plus braves. Il savait bien ce qu'il faisait, Scar. Emporté par sa curiosité, Simba entraîne sa compagne de jeu, Nala, dans cette aventure interdite. Zazu, le fidèle serviteur du roi, les surveille de près. Il va falloir lui fausser compagnie. Sitôt dit, sitôt fait. Et à présent, les deux lionceaux peuvent explorer librement le cimetière des éléphants. Simba joue au dur de dur qui n'a peur de rien, quand trois hyènes menaçantes surgissent d'une énorme carcasse. Elle souhaiterait tant avoir les lionceaux pour dîner. Effrayés, Simba et Nala veulent s'enfuir, mais ils sont pris au piège. La situation est quasi désespérée quand Mufasa apparaît, royal. En un rugissement et un coup de patte, il immobilise les hyènes, tremblantes, qui s'inclinent. Comment Simba et le fils de Mufasa, oh, si elles avaient su, évidemment, elles promettent de ne plus toucher un poil de la descendance royale. À présent, Mufasa renvoie Zazu et Nala, car il doit parler seul à seul avec Simba, qui lui a désobéi. Penaud, Simba suit son père vers la savane. Pour Mufasa, être brave, ce n'est pas risquer l'impossible. Il a eu très peur pour son fils. Mufasa regarde alors le ciel pour lui enseigner la tradition. Tu vois, ces étoiles sont les rois des siècles passés. Chaque fois que tu te sentiras seul, ces rois seront là pour te guider. Et un jour, je serai parmi eux. Pendant ce temps, dans sa grotte, Scar n'a pas fini de comploter. Avec les hyènes, il prépare un plan diabolique pour éliminer Mufasa. Un jour, Scar entraîne Simba dans une vallée cernée de falaises et lui demande d'attendre tranquillement son père au pied de l'arbre. Au-dessus de la vallée se trouvent des centaines de gnous, une sorte de taureau du désert. Scar, qui avait prévu son coup, provoque soudain la débandade de ce troupeau dans la vallée. Le lionceau terrorisé fuit tant qu'il peut. Prévenu par Scar, plus perfide que jamais, Mufasa se précipite au secours de son fils. Le petit Simba réussit à s'accrocher à une branche d'arbre, mais celle-ci rompt sous son poids. Mufasa se jette alors dans la vallée, met son fils en sûreté sur un rocher et tente de résister à l'assaut des gnous. Il est blessé, il s'accroche du bout des griffes à un rocher. Le cruel Scar est là qui l'attend. Mufasa implore l'aide de son frère, mais celui-ci le repousse et le précipite dans le ravin. Tandis que Simba pleure, allongé contre le corps de Mufasa, Scar le rejoint. Il accuse le lionceau d'être coupable de la mort de son père et lui conseille de s'enfuir très loin et de renoncer à son trône. Simba s'éloigne tristement, mais il est bientôt poursuivi par les hyènes qui ont pour mission de l'éliminer. Alors il fuit loin, loin, très loin, et à présent Scar peut s'emparer du trône tant convoité. Simba est arrivé à semer les hyènes. Il traverse les plaines sans savoir où aller. Épuisé, le petit tombe alors sur le sol brûlant du désert à bout de force. Des vautours se mettent à tournoyer autour de son corps inanimé. Mais voilà de l'aide peut-être. Dans ce coin du désert viennent à passer Timon et Pumba, deux personnages pour le moins loufoques. Timon, la mangouste bavarde, n'est pas très rassurée. Est-ce bien raisonnable de sauver un lionceau qui, une fois grand, pourra les dévorer? Mais Pumba, le facochère au grand cœur, pense au contraire qu'un lion peut devenir un très bon allié. Timon et Pumba transportent alors Simba dans la jungle et lui remontent le moral avec deux mots seulement. Hakuna Matata. C'est-à-dire, quand le passé est passé, il vaut mieux prendre la vie du bon côté. Eh bien, c'est décidé, Simba va rester dans la jungle avec ses nouveaux amis et tenter d'oublier ses malheurs. Les années passent et Simba devient un jeune lion robuste, vivant dans l'insouciance et la joie. Hakuna Matata. Un beau jour, Nala, devenue une superbe lionne, chasse du côté de la jungle. Elle aperçoit un facochère, excellent repas, et se lance à sa poursuite. Servir de plat de résistance? Ah, Pumba n'est pas du tout d'accord, il n'en est pas question, et il fuit en poussant des cris de cochon écorché pour alerter ses amis. Au moment fatidique, Simba apparaît rugissant et se jette sur Nala. Après quelques coups de patte, les deux lions se regardent et se reconnaissent soudain. C'est Nala, son ami d'enfance. C'est Simba, que tout le monde croit mort depuis longtemps. Ils sont tellement heureux. Simba montre à son ami cette jungle si accueillante où il vit désormais. Nala raconte alors à Simba combien le royaume a changé depuis que Scar s'est emparé du trône. Mais pour elle, désormais, tout va bien. Simba est en vie et c'est lui, maintenant, le roi. À ces mots, le regard de Simba s'assombrit. Il refuse d'être le roi car ici, il s'est reconstruit une vie sans soucis. Et c'est bien mieux comme ça. Hakuna Matata! Nala n'est pas d'accord car tous les animaux ont besoin de lui. C'est son royaume et il faut qu'il revienne chasser l'odieux Scar. Simba a dans son cœur une profonde blessure. Il se sent tellement coupable de la mort de son père qu'il ne se croit pas digne de régner. Mais il ne peut pas l'expliquer à Nala. Alors elle s'en retourne, très triste, laissant le jeune lion à ses pensées. Depuis la terre des lions, Rafiki, le singe sorcier, a deviné que Simba était toujours en vie. « C'est l'heure de son retour !» s'exclame-t-il en se dirigeant vers la jungle. Tandis que Simba, effondré, regarde les étoiles en s'interrogeant sur le cours de sa vie, Rafiki vient à sa rencontre. Comme ce singe l'importune avec ses cris bizarres. Mais c'est que Rafiki l'a reconnu, tué Simba, le fils de mon ami Mufasa. À ce nom, Le jeune lion sursaute et le singe lui propose alors de l'emmener voir son père, toujours vivant. Simba ne veut pas y croire, mais il suit ce personnage mystérieux à travers la jungle. En arrivant devant une mare, Rafiki lui conseille de s'y pencher. Simba regarde, mais déçu, ne voit que son propre reflet. Il regarde à nouveau et aperçoit le reflet de son père. Et oui, Mufasa vit en lui désormais. C'est alors que le fantôme bienveillant de Mufasa apparaît dans un nuage et s'adresse à son fils. Il reproche à Simba d'avoir oublié qui il était. Il est son fils et c'est lui le roi. Guidé par les mots de son père, Simba prend sa décision. Il va défier son oncle et reprendre sa place. Lorsque Simba découvre la terre des lions, son cœur se serre. Où sont les plaines verdoyantes qu'il a connues? Tout n'est plus que cendres et désolation. Heureusement, Nala, Timon et Pumba l'ont retrouvé et vont l'aider à reconquérir le trône en chassant Scar et ses hyènes affreuses. Ces hyènes qui surveillent le territoire, il faut maintenant détourner leur attention pour que Simba puisse passer. Timon, déguisé pour l'occasion en danseuse des îles, leur propose un repas alléchant, son ami Pumba. Évidemment, elles sont attirées par nos deux loustiques qui hurlent et s'enfuient au tout dernier moment. Mais du côté du rocher des lions, Simba observe de loin une scène douloureuse. Sarabi, sa mère, est convoquée par Scar parce qu'il n'y a plus rien à manger. Elle lui explique calmement que les lionnes font leur devoir de chasse, mais que les troupeaux ont quitté le royaume depuis longtemps. Agacé par toutes ces explications, Scar lui envoie un coup de patte qui la fait tomber à terre. Simba ne peut supporter cette humiliation et s'approche de sa mère. Elle croit tout d'abord reconnaître Mufasa, mais non, c'est son fils, Simba. Simba se dirige alors vers son oncle avec la ferme intention de le mettre en pièces. Mais Scar révèle à l'assemblée la raison pour laquelle Simba fuit le royaume. Le lionceau est responsable de la mort de son père. Déboussolé, perdu, Simba recule jusqu'à la corniche au-dessus de la plaine et se retrouve dans la même position que Mufasa avant de mourir. Savourant déjà sa victoire, Scar lui avoue qu'il a lui-même assassiné Mufasa. Ivre de colère, Simba se ressaisit. La vérité éclate à présent et les lionnes se lancent dans une bataille féroce contre les hyènes. Timon, Pumba et Rafiki s'y mettent aussi avec beaucoup de cœur. Simba tient maintenant Scar à sa merci quand ce dernier accuse les hyènes d'être les véritables ennemis. Simba, royal, épargne son oncle, mais le bannit à jamais du royaume. Scar fait mine de se soumettre, mais il bondit soudain sur Simba. Celui-ci, vif comme l'éclair, esquive le coup et fait basculer Scar au milieu des hyènes qui l'attendaient justement pour régler leur compte. Pour marquer sa victoire, Simba marche la tête haute le long du rocher des lions et pousse un puissant rugissement. Quelques mois plus tard, tous les animaux sont présents pour célébrer la naissance du nouveau-né, le fils de Simba et de Nala. Rafiki le présente aux animaux du royaume, c'est la tradition. Comme le veut aussi la nature, ce lionceau deviendra à son tour un père. C'est ça, l'histoire de la vie.